à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En visite à Sobané, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé la population à ne pas se livrer à des actes de vengeance. Deux hauts représentants américains étaient à Khartoum pour favoriser la reprise de pourparlers entre les généraux et la contestation. Le virus Ebola fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda. Deux pétroliers norvégiens et japonais ont été attaqués en mer d'Oman dans le Golfe. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a demandé aux populations de Sobaneda de ne pas tomber dans l'esprit de vengeance. L'État prendra de nouvelles mesures pour votre sécurité. Il y aura une rencontre très bientôt sur le centre, a dit le chef de l'État lors de sa visite dans le village ce matin. Il s'est recueilli sur les tombes de 35 victimes. Kassim Traoré sur place nous en dit plus.
Pour ce déplacement dans le village de Soban, le président Ibeka avait dans sa délégation le cardinal Jean Zerbo de l'Église catholique du Mali, car le village de Soban est à 100% chrétien. Et c'est le cardinal qui a dirigé le rituel de recueillement aux morts avant la visite du village, dont une grande partie a été détruite par les assaillants le dimanche dernier. Puis il y a eu les échanges avec la population. Ibeka a présenté ses condoléances et celles de la nation aux populations de la dite commune. Le président Ibeka a demandé aux populations de Soban de ne pas tomber dans l'esprit de vengeance. L'État prendra de nouvelles mesures pour votre sécurité. Il y aura le désarmement des milices. Personne ne circulera avec les armes sans être militaire. Nous allons bientôt aussi organiser une rencontre sur le centre, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta. Les populations de Soban ont remercié le président pour son déplacement, mais elles ont insisté sur la sécurité, surtout en cette veille de saison hivernale, parce qu'il y aura beaucoup d'activités culturelles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'attaque menée dimanche soir à Darak, dans le nord du Cameroun, par Boko Haram a fait 18 morts selon la force régionale qui lutte contre les djihadistes. Environ 300 combattants lourdement armés de Boko Haram ont envahi Darak, où ils ont rencontré une forte résistance de la FMM, indique un communiqué de la force qui fait état de 10 militaires tués et 8 blessés, ainsi que de 8 civils tués et un blessé. Selon elle, 64 terroristes ont été tués et 8 capturés. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, Tibor Nagy, était à Khartoum ces deux derniers jours. Il a rencontré les représentants du mouvement de contestation et les militaires au pouvoir. Les États-Unis ont aussi nommé un émissaire spécial pour la crise au Soudan, le diplomate Donald Booth. Patricia Huon sur place dans la capitale soudanaise.
Les États-Unis tentent de faire pression afin de relancer un dialogue au Soudan. Si leur influence est limitée à Khartoum, ce n'est pas le cas de pays qui lui sont traditionnellement alliés, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, qui soutiennent la junte soudanaise. La coalition d'opposition continue, elle, de réclamer que les militaires acceptent de partager le pouvoir avec les civils. Elle a déclaré qu'avant de retourner à la table des négociations, elle veut que les conditions qu'elle a posées soient remplies, notamment le rétablissement d'Internet, la libération des prisonniers politiques et l'ouverture d'une enquête pour le massacre du 3 juin devant le siège de l'armée à Khartoum. Suite à la suspension du mouvement de désobéissance civile, l'activité a repris dans les rues de la capitale, les magasins sont ouverts, la circulation est presque de retour à la normale, mais l'inquiétude demeure parmi la population et le moral est bas. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Au moins 50 personnes sont mortes ces derniers jours dans des tueries dans la province de l'Ituri, en RDC, a indiqué le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. L'on se rend compte qu'il y a d'autres cas, a-t-il précisé, tandis que d'autres sources évoquaient 70 morts. Les violences qui ont commencé vendredi et sont amplifiées à partir de lundi touchent le territoire de Djougou, au nord du chef-lieu de Bounia. En Ouganda, le virus Ebola a fait une deuxième victime. Les autorités s'efforcent de contenir cette épidémie apparue en août dernier en RDC. où elle a déjà fait plus de 1300 morts. John Lyndon.
La deuxième victime décédée hier soir est la grand-mère du garçon de 5 ans, mort 24 heures plus tôt à Bouira, dans le district de Kasese, frontalier de la RDC. Les deux victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille à des obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Toute la famille est rentrée à Ouganda où le ministère de la Santé les avait placés en quarantaine après avoir diagnostiqué une contamination de deux enfants de 5 et 3 ans et de leur grand-mère de 50 ans. 8 autres personnes qui ont été en contact avec eux ont également été placées en observation à l'isolement. 27 personnes sont mises sous stricte surveillance. Selon l'OMS, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Une nouvelle campagne de vaccination doit s'étenir ce vendredi selon le ministère ougandais de la Santé. L'Ouganda s'est placé en état d'alerte depuis le début de l'épidémie en août 2018 dans l'est de la RDC où plus de 2000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les deux tiers de ces malades sont morts. Quelque 25 000 personnes transitent quotidiennement par le principal poste frontière entre les deux pays.
L'ancien premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a été écroué après son audition dans le cadre des enquêtes anticorruption au lendemain de l'emprisonnement d'un autre ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyaïa. Depuis le début du mouvement de contestation, la justice a écroué plusieurs hommes d'affaires soupçonnés d'avoir profité de leurs liens avec l'ex-président Bouteflika pour obtenir des marchés publics. Au moins 385 éléphants ont été victimes de braconnage dans le nord du Botswana entre 2017 et 2018, selon une étude d'Éléphants sans frontières. Dans la revue scientifique Current Biology, l'ONG dit avoir découvert des preuves d'un problème croissant au Botswana. Comparant avec les résultats de recensement de 2014, l'organisation souligne avoir enregistré une hausse de 593% du nombre de carcasses récentes de pachydermes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les attaques commises contre des navires civils dans le Golfe lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations Unies et la Ligue arabe. Le point avec Michel Joseph.
Je condamne toute attaque contre des navires civils, a dit le patron de l'ONU, soulignant que le monde ne pouvait se permettre un conflit majeur dans le Golfe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abouzgait, a dénoncé le ciblage de pétroliers et les attaques au cœur de l'Arabie saoudite avec missiles qui, selon lui, sont une évolution dangereuse. Deux pétroliers, norvégiens et japonais, ont été la cible jeudi d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, une région déjà sous haute tension à cause de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Il y a un mois, des attaques s'étaient produites contre 4 navires, dont 3 pétroliers au large des Émirats Arabes Unis, acte pour lequel Téhéran a été montré du doigt par Washington. L'Iran a démenti toute implication. Dans un rapport préliminaire d'enquête, les Émirats Arabes Unis ont estimé que ces attaques étaient l'œuvre d'un acteur étatique sans l'identifier.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé l'engagement de l'organisation en faveur d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Nous maintenons notre engagement collectif à une vision à deux États basée sur les résolutions pertinentes de l'ONU, les principes établis de longue date, les accords antérieurs et le droit international, a déclaré le chef de l'ONU lors de cette réunion du Conseil de sécurité consacrée aux relations avec la Ligue arabe. En Afghanistan, un attentat contre un poste de police à l'entrée de Jalalabad a fait au moins 11 morts, selon les autorités. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat commis par un kamikaze à pied qui a fait exploser sa charge. L'hôpital provincial a indiqué que 13 personnes ont été blessées. Le nouvel ambassadeur chinois à l'ONU à Genève a indiqué avoir invité le Haut Commissariat aux droits de l'homme à visiter la région du Xinjiang. En mars, Michel Bachelet avait dit attendre le feu vert de Pékin pour un accès total à cette région, théâtre de tensions entre la majorité musulmane et la minorité Han. Au nom de la lutte contre le terrorisme et le séparatisme, Pékin a renforcé les mesures de surveillance et a ouvert des centres de formation pour les personnes soupçonnées de radicalisation islamiste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, qui vous est présentée par Nani Talani.
Le Fonds monétaire international approuve le décaissement de 248,15 millions de dollars au titre de facilité de crédit en faveur de l'Angola. Selon cette institution financière, les autorités de Luanda ont démontré leur ferme attachement aux politiques du programme soutenu par le FMI. Cependant, un environnement extérieur affaibli, notamment la volatilité accrue du prix international du pétrole brut, constitue un défi pour leurs efforts de réforme. L'Éthiopie pourrait avoir besoin de 2,2 milliards de dollars pour moderniser son secteur des télécommunications en crise. D'ailleurs, le Parlement doit débattre ce jeudi d'une loi créant un nouveau régulateur de ce secteur. Le gouvernement éthiopien envisage d'octroyer des licences à des multinationales de la téléphonie mobile d'ici décembre, dans l'espoir qu'elles seront opérationnelles l'année prochaine. Ces efforts pour créer un environnement propice aux investissements privés pourraient aider le pays à rééquilibrer son économie. Pour terminer, la Tunisie va recevoir du Fonds monétaire international 24 millions de dollars au titre de la sixième revue du programme du mécanisme élargi de crédit. Ce nouveau décaissement ouvre la voie à l'émission par le pays de 800 millions de dollars d'euros obligations destinées à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du PIB cette année contre environ 5% l'an dernier.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Haris Belkebla a été exclu de la sélection algérienne pour la CAN 2019.
Oui, le milieu de terrain de Brest a été mis à l'écart pour raisons disciplinaires après avoir exhibé son postérieur sur Internet d'après la Fédération algérienne. Alors qu'un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne sur un réseau, Belkebla apparaît à l'écran et se déculotte visiblement pour le déconcentrer. La Fédération algérienne de football précise que la décision du sélectionneur Djamel Belmadi a pour but de maintenir la discipline au sein du groupe. Le nom du remplaçant d'Haris Belkebla n'a pas officiellement été communiqué, mais la presse algérienne affirme que c'est le milieu de l'USM Alger, Mohamed Benkemessa, qui a été choisi.
Sur le marché des transferts, Moussa Djenepo rejoint Southampton.
L'ailier malien a quitté la Jupiter Pro League pour le championnat d'Angleterre. Sauvé in extremis en Premier League cette saison, Southampton a officialisé l'arrivée de Moussa Djenepo. Après 2 ans et demi passés au Standard de Liège, il a paraffé un contrat de 4 ans contre environ 17 millions d'euros. Présentement en stage de préparation pour la CAN avec les Aigles maliens, Moussa Djenepo va rejoindre son nouveau club après la compétition. Autre nouvelle de transfert, le latéral franco-sénégalais de l'Olympique lyonnais, Ferland Mendy, a signé au Real Madrid pour les 6 prochaines années contre 48 millions d'euros hors bonus.
La prochaine saison de la Première Ligue commence en août.
Le double champion en titre Manchester City commencera sa nouvelle saison face à West Ham le 10 août. Le champion d'Europe en titre Liverpool aura l'honneur d'ouvrir la saison dès le 9 en accueillant le premier Norwich. Les Reds retrouveront les mancuniens de Pep Guardiola en novembre à Anfield. Manchester United accueillera une équipe de Chelsea qui commencera sa vie sans Eden Hazard pour le choc de la première journée. Arsenal se rendra lui à Newcastle. Tottenham, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions, affrontera un autre promu Aston Villa avant de se rendre à Manchester pour y affronter les Citizens lors de la deuxième journée.
NBA, le diagnostic redouté est tombé pour Kevin Durant.
L'ailier de Golden State souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite et sera éloigné des parquets pendant de longs mois. Durant 30 ans, s'est blessé lors du match numéro 5 de la finale entre Golden State et Toronto. Sa blessure a déclenché une polémique car il n'avait plus joué depuis un mois et soignait une blessure au mollet droit depuis le 8 mai. Certains observateurs ont accusé les Warriors d'avoir avoir joué avec sa santé, une accusation que Durant a lui-même balayée après son opération, apportant son soutien à son équipe qui est menée 3-2 avant le match numéro 6 ce soir dans sa salle.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Algérie, plusieurs ex-ministres ont été arrêtés. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été transféré dans une prison de la banlieue d'Alger pour rejoindre l'autre ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyaïa. Le point à Alger avec Mehdi Alaoui.
Ils étaient ex-ministres, responsables locaux et hommes d'affaires sous le règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ils sont désormais derrière les barreaux après avoir été entendus dans des enquêtes pour corruption, dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Après Ahmed Ouyaïa, c'est au tour de Abdelmalek Sellal et Amara Ben Younes, respectivement ex-premier ministre et ex-ministre du commerce, d'être placés sous mandat de dépôt à la prison Al-Harrach dans la banlieue d'Alger. Est-ce le sursaut d'une justice désormais libre, comme le répétait Gaït Salah, nouvel homme fort de l'Algérie, ou plutôt une comédie à laquelle joue le pouvoir en place pour se régénérer? Pour l'avocat Abdelghani Badi, dans une déclaration à VOA Afrique, le pouvoir ne fait que sacrifier des têtes pour calmer le mouvement populaire.
هذه الأعضاء المتعفنة هو راه في حالة بطرة ويقطع فيها باش يقدر يعيش
Voilà, donc c'était un reportage à partir de l'Algérie. Nous aurons la traduction de ce reportage dans la prochaine édition et nous nous en excusons. En 2009, Jesse Morton, alors grand propagandiste d'Al-Qaïda en Amérique, a lancé une publication en ligne intitulée « Jihad Recollections » qui a donné naissance quelques années plus tard au magazine du groupe État islamique d'Abik et Rumia. Mais ce même propagandiste est un homme différent aujourd'hui. S'inspirant des pratiques de l'ancienne publication, il a lancé un nouveau magazine, cette fois dans le but de contrer la propagande djihadiste en ligne. Voici un reportage de Massoud Farivar. Le récit est d'Arzouma Compaoré.
Deux magazines sur papier glacé, deux images. L'une glorifie le califat, l'autre montre sa violence.
Nous utilisons un modèle et un support qui ont eu un succès incroyable dans le cercle du djihadisme. Grâce à cela, vous pouvez les atteindre et mettre fin à leur héritage.
Morton était autrefois le principal propagandiste américain d'Al-Qaïda et créateur de Jihad Recollections, le premier magazine de propagande djihadiste. Mais depuis, il a renoncé à la violence. Il fait maintenant la promotion d'un message différent par le biais de son nouveau magazine intitulé Ahul Taqwa.
Plutôt que de montrer des photos des personnes en train de tuer, comme si c'était une bonne chose, nous montrons des photos des personnes décédées dans la rue où se trouve une poupée à côté d'un sac mortuaire.
La publication de 39 pages rivalise avec les magazines djihadistes en qualité de production, mais offre surtout une vision très différente du groupe État islamique. Dans une lettre à l'éditeur, Morton écrit « Ahul Taqwa ne cherche pas à tuer ces individus, mais à tuer leurs idées fausses et leurs idéaux erronés. » Mitch Silber, ancien directeur des services de renseignement du département de la police de New York, est le partenaire de Morton.
Clairement, le message, l'idée de Daesh, le mouvement est toujours là, même si l'organisation, le califat physique, a pris un coup.
Le nouveau magazine a certes suscité un débat civil, mais il a également entraîné des menaces de mort contre ses créateurs.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Nous évoquons la suspension des ventes du cacao par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays veulent des prix plus élevés. Les deux pays ont-ils raison de faire pression sur les acheteurs? Est-ce que cela va-t-il réellement bénéficier aux petits producteurs?
comment mieux protéger les matières premières sur le continent. Venez en discuter en direct ce soir à 18h05 sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce soir à 18h05, temps universel.
Ici aux États-Unis, la décision du président Donald Trump d'engager un bras de fer avec la Chine sur le déficit de la balance commerciale bénéficie du soutien unanime du Congrès. Cependant, des aspects de son approche suscitent le doute et la résistance chez certains législateurs. Voici le reportage de Michael Bowman, présenté par Lionel Gaïma.
La Chine était l'un des soucis majeurs du président Trump quand il s'était adressé aux deux chambres du Congrès en février 2017.
Nous avons perdu 600 000 emplois manufacturiers depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce.
Tout comme lors de ses récents meetings politiques.
So I just announced we'll increase tariffs on China. Si donc j'ai annoncé que nous augmenterons les droits de douane sur les produits chinois et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que la Chine cesse de tricher et de voler nos emplois.
Les précédentes administrations américaines avaient, elles aussi, décrié les pratiques commerciales chinoises. Cependant, le président Trump est le premier leader américain à prendre des mesures de rétorsion, ce qui lui vaut des applaudissements des législateurs, comme le sénateur républicain James Reed.
Si nous ne nous défendons pas contre le vol de nos idées et de nos technologies, nous ne pourrons pas empêcher que nos concitoyens perdent leur emploi et fassent les frais d'une compétition déloyale.
Un avis que partage Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
We gotta do something about China.
Nous devons faire quelque chose concernant la Chine, sinon l'Amérique ne sera plus une puissance économique forte d'ici 10 ou 15 ans.
Pourtant, certains républicains s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale, dont la sénatrice républicaine Joni Ernst.
Un emploi sur cinq dans l'État de l'Iowa dépend directement du commerce.
Ériger de nouvelles barrières commerciales avec des droits de douane et des quotas ne constitue pas une solution à long terme, d'après le sénateur républicain Chuck Grassley. Les querelles tarifaires avec le Canada, le Mexique, l'Europe et le Japon ont affaibli la position américaine dans les négociations avec la Chine, estime de son côté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président Trump entend malgré tout poursuivre sa stratégie, car selon lui, c'est un excellent outil de négociation et génératrice de revenus.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ce 13 juin est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme qui continue d'être profondément mal compris. L'apparence physique des personnes en souffrant est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés, ce qui favorise leur marginalisation. Au Mali, ces croyances continuent à mettre en danger constant la vie des albinos. Au micro d'Arzuma Compaoré, écoutons Kumba Makalou, présidente de la fondation Salif Keita pour l'albinisme aux États-Unis.
La situation actuelle pour l'albinisme au Mali en particulier est beaucoup plus stable qu'elle a été dans le passé, juste dans le sens où il y a beaucoup plus de visibilité des personnes atteintes d'albinisme et ils ont aussi beaucoup de plus de compréhension par rapport à l'albinisme en général. Le challenge, c'est que, bon, il y a beaucoup de personnes atteintes d'albinisme et donc le besoin est énorme. Et nous, nous sommes une fondation, nous vivons dans l'idée que nous avons peut-être des ressources limitées à cause de cela. Donc, nous ne sommes pas un gouvernement. Le gouvernement devrait s'impliquer, devrait nous soutenir, devraient soutenir leur population vulnérable comme les personnes atteintes d'albinisme pour que ce genre d'action puisse vraiment avoir plus d'ampleur à travers le pays. Souvent, on parle de l'ignorance de la population en général par rapport à l'albinisme, parce qu'il y a toujours des idées qu'ils ne sont pas humains ou bien ils ne sont pas des personnes à part entière ou ils sont peut-être des personnes qui sont maudites. Et aussi que c'est peut-être que le père pense que la maman a peut-être eu cet enfant avec une personne blanche. Il y a de l'ignorance de ce côté-là, mais il y a aussi l'ignorance par rapport aux personnes atteintes d'albinisme et leur famille à comprendre eux-mêmes quelles sont les difficultés qui viennent avec leurs conditions. Parce que, par exemple, les personnes atteintes d'albinisme, beaucoup ne savent pas qu'il ne faut pas être au soleil. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas que le soleil, c'est leur ennemi numéro un. Et ça, c'est déjà quelque chose que nous, on essaie de faire comprendre pour porter les chapeaux. Les mamans les laissent sortir sans chapeau, ils n'insistent pas, ils disent on le laisse. Les crèmes solaires, c'est peut-être fatigant de mettre ça tout le temps, mais c'est important de comprendre que l'enfant, sans cette protection-là, peut devenir extrêmement malade et même mourir. L'objectif de la Fondation Salif Keita, c'est d'obtenir une meilleure vie, qualité de vie pour toutes les personnes atteintes d'albinisme au Mali et à travers le monde. Nous pensons que les personnes qui ont l'albinisme, ils ont droit au bonheur, ils ont droit à la liberté, ils ont droit à la sécurité, ils ont droit à ce travail. C'est de pouvoir les assister en obtenant cet objectif. Donc, premièrement, c'est leur santé, parce que pour vivre, il faut être en bonne santé. Donc, on s'occupe de leur santé. Aujourd'hui même, au Mali, on avait des visites avec les ophtalmologues, etc., pour essayer de les aider visuellement. On distribue les crèmes, on fait aussi les soins pour la prévention des cancers. Et aussi, on fait des formations professionnelles, parce que aussi, si on est en bonne santé, si on ne peut pas gagner notre vie, ça aussi, c'est un handicap. Donc, il faut pouvoir les former dans des professions qui sont adaptées à ne pas être exposées au soleil. Donc, on fait beaucoup d'autres activités, mais tout, c'est dans le but de leur donner la possibilité de vivre comme il faut, une bonne qualité de vie.
Voilà, c'était Kumba Makalou, présidente de la Fondation Salif Keita pour l'albinisme aux États-Unis. On revient sur l'Algérie, où deux anciens premiers ministres ont été incarcérés. Le point à Alger avec Mehdi Alioui.
Ils étaient ex-ministres, responsables locaux et hommes d'affaires sous le règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ils sont désormais derrière les barreaux après avoir été entendus dans des enquêtes pour corruption, dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'un dû privilège. Après Ahmed Ouyahia, c'est au tour de Abdelmalek Sillal et Amara Ben Younes, respectivement ex-premier ministre et ex-ministre du commerce, d'être placés sous mandat de dépôt à la prison Al-Harrach dans la banlieue d'Alger. Est-ce le sursaut d'une justice désormais libre, comme le répétait Gaït Salah, nouvel enfant de l'Algérie, ou plutôt une comédie à laquelle joue le pouvoir en place pour se régénérer? Pour l'avocat Abdelghani Badi, dans une déclaration à VOA Afrique, le pouvoir ne fait que sacrifier des têtes pour calmer le mouvement populaire.
Ce pouvoir est comme un corps qui se débarrasse peu à peu des organes infectés pour survivre. Il veut aussi convaincre l'opinion publique qu'il y a un réel changement. La vérité est que ce système est toujours le même, mais il subit des conflits intrinsèques, des règlements de comptes. Il s'auto-dévore pour survivre. Il joue ses dernières cartes en abattant les têtes.
Dans la rue, les Algériens ont bien accueilli les nouvelles des arrestations de ces ex-responsables. Néanmoins, de leur avis, le mouvement populaire ne doit pas cesser, puisque cette justice fonctionne toujours au téléphone. Khaled, jeune citoyen algérien, en veut pour preuve le manque de transparence sur ces affaires.
Bien sûr, en tant que citoyen, on est en train de suivre de près les affaires en justice qui se déroulent actuellement au niveau de la Cour suprême. Malgré, il y a peu d'informations qui sortent, mis à part ce que publie la presse nationale. Ce qu'on demande, c'est une clarté et une transparence dans les jugements. Et on veut que ces juges et cette justice rendent publique les détails du jugement.
Mehdi Alimi, VOA Afrique, Alger.
Voilà, c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Zinab Aderaman, à la présentation Nathalie Barge. Restez avec nous dans quelques secondes. Un rappel des titres de l'actualité avec Nani Talani.
Les infos.